Et en fait, il y a un ami à moi qui avait acheté, bon là c'est vraiment un peu snob, mais qui avait acheté du citron caviar, un aliment que je connaissais absolument pas. Et donc on ouvre ce citron et c'est une sorte de tout petit citron de couleur verte avec des petites billes comme du caviar qui explosent en bouche. Et il me dit, mais mets-en un petit peu dans ton huître et tu verras ce que ça fait. Et prends un peu de beurre salé, etc. Donc j'en essaye et tout. Et je vois l'effet un peu de bulle explosive qui fait son effet en bouche. Et là, je trouve ça absolument merveilleux. Donc j'en mange une deuxième, une troisième. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu le déclic en me disant, mais en fait, c'est complètement idiot de pas aimer les produits de la mer s'ils sont bien accompagnés.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Des goûts et des couleurs. Il faut de tout pour faire un monde, entend-on souvent. Oui, mais d'abord, d'où nous vient cette diversité des goûts? Comment expliquer que ce qui est agréable au toucher ou doux à l'oreille pour les uns peut être insoutenable pour d'autres? Devant l'assiette aussi, les dissensions sont grandes. Une saveur, un arrière-goût, une texture. Devant ce que certains trouvent agréable en bouche, d'autres peuvent ressentir un frisson de dégoût leur parcourir l'échine. Dans cette série qui met à l'honneur les papilles, revenons à l'essence de ce qui active nos glandes salivaires. À quel moment de notre existence nos goûts alimentaires prennent-ils forme? Sous quelles conditions ces goûts se construisent-ils? Entre le patrimoine familial, les habitudes de vie, les plats de l'enfance, par quoi sont-ils influencés? Jusqu'à quand est-il encore possible de modifier notre bibliothèque des saveurs? Comment expliquer que certaines populations affichent un goût invétéré pour l'anis et le pimenté, quand d'autres ne semblent pas outillées pour apprivoiser ces saveurs? À travers reportages, analyses et témoignages, plongeons ensemble à la recherche de l'essence du goût et de ses secrets. Autour d'elle, les fromages puaient. Avec le passage du soleil, la chaleur rend les odeurs de plus en plus écœurantes. Cependant, ces odeurs sont transformées en musique de fond. Il y eut une reprise suffocante du Livaro. Et cette symphonie se tint un moment sur une note aiguë du Jérôme anisé, prolongée en point d'orgue. Dans ce passage du roman « Le ventre de Paris », Émile Zola nous offre une symphonie des fromages, sous la forme d'une description rythmée des odeurs de pourriture émanant d'un stand de fromagerie, quelque part dans un coin des Halles. Pour comprendre la puissance symbolique de ce texte, référons-nous à l'analyse qu'en fait la chercheuse Elisabeth Dusing dans sa thèse soutenue en 1993 à propos de l'imaginaire alimentaire dans les romans de Zola et dont on vous laisse les références en description de cet épisode. Ceci représente la négation d'un symbole normalement positif, écrit Elisabeth Dusing. Des produits laitiers qui sont perçus comme bienfaisants, bons pour la santé, voire maternels. Mais puisque Madame Lecoeur, qui tient la fromagerie, est vieille et amère, et que le commérage des femmes avec qui elle converse est si méchant, Zola insiste sur les odeurs dégoûtantes qui émanent des beurres et des fromages. Dégoûtante, le mot est dit. Et dégoûtant, ce qui inspire le dégoût, la répugnance. Mais qu'est-ce que le dégoût, si ce n'est le manque de goût, comme l'indique le préfixe « dé » ? En réalité, le « dégoût » est bien plus que l'absence de goût, un brin passif. Le dégoût va jusqu'à l'aversion, la répugnance, la sensation d'écœurement, le haut-le-cœur. Le dégoût souvent invite une réaction physique, une grimace à minima, une moue, la nausée, l'envie de vomir, parfois même l'évanouissement. La mimique la plus caractéristique du dégoût consiste à se détourner en se pinçant le nez, analyse la chercheuse en philosophie esthétique Claire Marga dans sa phénoménologie du dégoût. Le sens le plus affecté par le dégoût est en effet l'odorat, dans la mesure où, par ses émanations, une substance nauséabonde et écœurante peut pénétrer en partie dans le corps de manière volatile. Le dégoût, écrit-elle, réagit à une effraction de l'intimité corporelle, celle qui définit le corps propre aux deux sens du terme, propreté et propriété. Et vous, y a-t-il des aliments qui vous dégoûtent? Des odeurs alimentaires qui vous révulsent au point de provoquer chez vous l'écœurement le plus absolu? Et dans votre trajectoire alimentaire personnelle, existe-t-il des aliments qui vous ont un jour dégoûté et que vous appréciez désormais? Dans cette série sur la construction du goût, interrogeons-nous aussi sur toutes ces fois où notre répertoire de goûts nous étonne par sa capacité à évoluer, grandir et être modifié. Ce revirement de goût culinaire, Eulalie, 25 ans, l'a vécu il n'y a pas si longtemps. Pendant la majeure partie de sa vie, cette jeune femme, que ses proches surnomment tendrement « glouton joyeux », mangeait de tout, sauf d'une catégorie d'aliments bien précise, les fruits de mer. Au micro de Bouffon, elle raconte comment, à la faveur d'un citron caviar, tout a un jour basculé.
Moi, quand j'étais enfant, je trouvais que tout ce qui venait de la mer était absolument détestable et me dégoûtait pour l'odeur, pour la présentation, parce que c'était des grosses bêtes qui me faisaient peur, notamment le crabe et tout ce genre d'aliments. Les bulots, c'était des escargots de mer, j'appréciais pas non plus les escargots de terre. Je trouvais ça infâme. Donc, en fait, j'ai toujours vécu ces fruits de mer comme une sorte de cauchemar éveillé, puisqu'à Noël, il y en avait toujours trop, et moi, je ne pouvais pas en manger. Donc, mes cousins et moi, nous avions toujours un plat à côté, et les adultes avaient un buffet fast et bien rempli, et ça durait des jours et des jours, des plateaux de fruits de mer à n'en plus pouvoir, et c'était vraiment terrible. Et je me souviens que quand les autres de mes camarades à l'école, on en parlait, et qu'ils me disaient « Ah ben nous, on a mangé, je sais pas moi, parce qu'il y a aussi des gens qui font Noël avec des autres plats qui changent tous les ans, etc. » Chez moi, c'était assez traditionnel, et donc c'était toujours les fruits de mer le 24 au soir, et le 25 au midi, du chapon. Du chapon avec des marrons et des choux de Bruxelles, que je n'aimais pas non plus. J'étais assez difficile. Mais les fruits de mer, la veille, je me disais, mais quand est-ce qu'on va avoir les cadeaux? Parce que c'était à minuit. Il fallait qu'on attende que les parents et les grands-parents, les tantes et les oncles s'enfilent tous les fruits de mer avec cette odeur vraiment qui me révulsait. Et nous, à côté, enfin surtout moi, qui avait un plateau repas à côté qui était beaucoup moins bien. Donc quand les périodes de Noël arrivaient, j'étais un peu partagé entre le fait que la famille allait être réunie et que ça allait être très sympa, mais aussi que j'allais pas bien manger, alors que normalement, les fêtes de Noël sont associées justement à des bons souvenirs également culinaires. Et donc pendant des années, jusqu'à mes 20 ans, je pouvais pas manger de fruits de mer. Et un jour, quand j'étais chez un ami à Pénétin, à côté de Saint-Nazaire, on est parti dans les mines de sel, etc., pour ramasser du sel avec sa mère qui est ramasseuse de sel. Et ensuite, on est allé sur les rochers pour cueillir des huîtres à même les rochers, etc. On avait acheté du beurre salé et du pain pour les manger sur la plage, etc. Donc, il y avait tout un folklore qui était vraiment sympathique, etc. Et donc, on commence à les retirer. Donc, tout le processus me plaît bien parce que c'est quand même en plein air, c'est sympa, c'est l'été, c'est cool. Mais après, moi, je me disais... Tout ce qui m'intéresse, c'est l'aspect technique d'aller à la chasse. C'est comme aller à la chasse aux champignons, mais avec la mer en plus. Donc, on a les pieds dans l'eau, etc. Et ensuite, les ouvrir. Donc, il y a un aspect technique. Et après, pour que les autres les mangent, quoi. Parce qu'on était aussi avec ses parents et avec une bande de potes à nous. Et ils m'ont tous dit, mais allez, essaye, etc. Il y a quand même le goût iodé. Je disais, non, je peux pas et tout. J'en essaye une, j'y arrive pas. Je trouve ça assez terrible, etc. Et en fait, il y a un ami à moi qui avait acheté, bon là c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment un peu snob, mais qui avait acheté du citron caviar, un aliment que je connaissais absolument pas. Et donc, on ouvre ce citron, et c'est une sorte de tout petit citron de couleur verte, avec des petites billes comme du caviar qui explosent en bouche. Et il me dit, mais mets-en un petit peu dans ton huître, et tu verras ce que ça fait. Et prends un peu de beurre salé, etc. Donc j'en essaye et tout, et je vois l'effet un peu de bulle explosive qui fait son effet en bouche, et là je trouve ça absolument merveilleux. Donc j'en mange une deuxième, une troisième, et en fait c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu le déclic en me disant, mais en fait c'est complètement idiot de pas aimer les produits de la mer s'ils sont bien accompagnés. Et en fait je découvre aussi par la suite, puisqu'ensuite on est allé dans un resto où on a pris d'autres choses que je n'avais pas essayé depuis ma plus tendre enfance, parce que j'avais été un peu dégoûtée premièrement par l'aspect olfactif, mais aussi par l'aspect visuel, et je me rends compte qu'en fait c'était une sorte de souvenir amplifié d'aliments, que je n'avais pas réessayé depuis un bout de temps. Donc j'ai réessayé les crevettes avec de la mayonnaise à l'ail, et je trouvais ça excellent, et ensuite les bulots, les couteaux, et en fait je me suis rendu compte que c'était plus une idée d'enfant qui était de ne pas vouloir essayer des choses qui ont une odeur et peut-être un aspect différent d'autres aliments plus basiques de type les nuggets ou les pâtes, quoi. Donc le déclic, ça a été vraiment le citron caviar avec les huîtres qui m'a fait complètement vaciller. Et maintenant, maintenant à tous les Noëls, justement, je suis la première à réclamer des fruits de mer, notamment du homard, etc., à manger sous toutes ses formes. Et c'est pas pour faire un placement de produits, mais j'ai découvert également de superbes restos de fruits de mer à Paris. Et Place d'Aligre, il y a un bar qui fait une promo de un verre de vin d'Anjou avec 6 huîtres pour 8 euros. Et j'y vais toutes les semaines. Et en fait, c'est devenu un rituel avec des amis d'aller manger des huîtres, alors qu'avant, c'était vraiment révulsant, quoi.
L'adresse dont parle Eulalie est la Table d'Aligre, un restaurant de poissons situé au 11 Place d'Aligre, dans le 12e arrondissement de Paris. Se mettre à aimer les fruits de mer est pour Eulalie la preuve que l'on devrait toujours réessayer, tout au long de sa vie, à manger certains aliments a priori détestés.
Je suis vraiment ravie d'avoir eu ce déclic culinaire. Moi qui suis pas un fin gourmet, mais disons que la plupart de mon argent que j'épargne par mois, c'est pour aller au resto et dans des bons restos en général. Si j'étais passée à côté de toutes ces possibilités gustatives, ça me... Enfin, disons que je trouve qu'il y a que les gens bêtes qui ne changent pas d'avis. Et donc, le fait de se forcer et de pas rester dans ses retranchements, on m'a fait vraiment découvrir un monde, le monde de la mer, même si j'appréciais un peu le poisson, mais pas vraiment précédemment. Là, ça m'a fait vraiment réaliser que c'est tout un pan de la cuisine qui est absolument merveilleux, notamment aussi pour la cuisine japonaise, avec le poisson cru, j'aimais pas vraiment le poisson cuit, le poisson cru délicieux avec les tempura, donc c'est des crevettes, plein de choses, et je serais passée à côté vraiment d'énormément d'éléments qui sont incontournables pour la gastronomie. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir tout aimer. Et je parle pas simplement ensuite des fruits de mer. Là, je fais un constat plus général. C'est de toujours goûter ce qu'on n'aime pas, surtout lorsqu'il s'agit de souvenirs d'enfance où on n'aime pas certains produits.
Cette aversion alimentaire qu'a un jour ressentie Eulalie pour les fruits de mer, je l'ai longtemps eue pour le goût anisé. À vrai dire, je l'ai même encore, puisque les bonbons à la réglisse et le pastis sont par exemple des choses comestibles capables de venir dangereusement chatouiller le clapet au fond de ma gorge. Et pourtant, un soir d'été à la faveur d'un dîner en Italie, j'ai apprécié pour la première fois de ma vie une saveur anisée, grâce à une saucisse au fenouil. Il aura donc fallu attendre toutes ces années cette grillade italienne, dorée à l'extérieur, encore un peu juteuse à cœur, pour que mon palais se mette à accepter le goût du fenouil. Et depuis, je mange volontiers de cette plante potagère, y compris dans son plus simple appareil, émincé avec un filet d'huile d'olive par-dessus. Pour en savoir plus sur les dessous des soudains revirements gustatifs, j'ai tendu le micro à la chercheuse Sophie Niklos.
Je m'appelle Sophie Niklos, je suis directrice de recherche à INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Environnement, l'Agriculture et l'Alimentation. Et je travaille au Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation à Dijon.
Au micro de Bouffon, Sophie Niklos explique ce qu'est l'avantage adaptatif, ce phénomène qui nous invite à apprécier les aliments qui sont autour de nous. Elle rappelle au passage qu'il existe trois types de plaisirs à table, sensoriel, commensal et cognitif.
On a beaucoup d'éléments scientifiques qui nous renseignent sur la psychologie des apprentissages des préférences alimentaires. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment programmé pour apprendre à aimer les aliments qu'on mange. En fait, c'est un avantage adaptatif, finalement, d'apprécier les aliments qui sont dans notre environnement. Cet apprentissage, il peut avoir lieu tout au long de la vie. Il est vraiment favorisé au tout début de la vie, dans l'enfance, mais le mécanisme reste efficace et tout à fait en place tout au long de la vie. Donc, on va essayer de raisonner sur le plaisir alimentaire et donc ce qui va être la base de nos préférences alimentaires en trois dimensions. En fait, c'est un travail que j'ai fait avec mes collègues. On distingue le plaisir sensoriel, vraiment lié aux propriétés sensorielles de l'aliment, le plaisir social ou commensal, lié à la présence d'autrui lors de la consommation de l'aliment, et le plaisir, on va dire, cognitif, lié à la connaissance ou à différents éléments qu'on peut avoir autour d'un aliment. Donc, dans le cas que vous racontez, il est tout à fait possible que ce qui a favorisé le plaisir sensoriel de consommer ce goût de fenouil, c'est finalement le support sur lequel il était apporté, la saucisse, qui est un aliment familier que probablement vous appréciez. Et donc, on a eu un apprentissage conditionné par association de cet aliment qui était apprécié avec la composante fenouil que vous n'appréciez pas. Et c'est ce qui a probablement servi à renforcer l'apprentissage. Mais les autres dimensions ont pu jouer également. Donc, l'effet du contexte, et puis aussi l'effet du contexte social, peut-être les personnes avec qui vous avez mangé, qui ont aussi pu avoir un effet renforçateur positif. Donc ça, c'est vraiment la base des apprentissages alimentaires. Et on considère que voilà, ces mécanismes sont particulièrement efficaces dans l'enfance, mais vont aussi jouer tout au long de la vie.
Est-ce que partant de là, on peut dire que beaucoup de nos préférences alimentaires sont établies pendant l'enfance? Et si oui, en quoi ce socle de préférences alimentaires va déterminer peut-être nos comportements alimentaires jusqu'à l'âge adulte?
Alors, on a effectivement un certain nombre de raisons de penser que les apprentissages de l'enfance sont particulièrement importants dans l'établissement des comportements alimentaires. Alors, c'est un peu compliqué d'un point de vue scientifique de prouver l'absence d'importance de ces apprentissages dans l'enfance, puisqu'on mange tous dans l'enfance et on ne peut pas proposer une diète qui serait absolument neutre pour montrer, à contrario, que l'absence d'exposition sensorielle dans l'enfance nuit à l'établissement des préférences alimentaires. Néanmoins, ce qu'on a pu faire, notamment dans le cadre de différentes études et dans le cadre de suivi de cohortes d'enfants, on a pu montrer en particulier que les préférences des enfants, telles qu'elles sont manifestées à l'âge de 2-3 ans, sont significativement associées aux préférences jusqu'au début de l'âge adulte. Ça, c'était lors d'un suivi d'une cohorte d'enfants de la région dijonnaise qu'on a pu faire cette observation. Donc, ce qui veut dire que le comportement tel qu'il est déjà établi à l'âge de 3 ans, il est significativement prédictif du comportement de l'adulte. Alors, ça ne veut pas dire que tout est joué à 3 ans, mais qu'une grande base des apprentissages sont déjà effectués à cet âge-là. Et effectivement, on peut considérer qu'à 3 ans, un enfant a déjà eu un certain nombre d'occasions de découvrir les aliments du répertoire de sa culture alimentaire, qu'elle soit familiale ou au niveau du pays dans lequel il vit, puisqu'il a déjà eu l'occasion de se confronter aux différents aliments qui constitueront son répertoire d'adulte ultérieurement.
Si l'on part du principe que beaucoup de nos préférences alimentaires donc se constituent avant l'âge de 3 ans et qu'en tout cas il y a un intérêt à éveiller les enfants à une palette de goûts aussi diversifiée que possible, que peut-on faire en tant qu'adulte qui accompagne un enfant pour justement donc aiguiser cette curiosité?
C'est des éléments qu'on a beaucoup étudiés, essayer de comprendre les facteurs ou les périodes critiques avant 3 ans qui vont favoriser l'émergence des préférences alimentaires. On a eu l'occasion notamment de les mettre en avant, de résumer un petit peu ces réflexions dans le guide de la diversification alimentaire qui est proposé par Santé publique France sur le site Manger Bouger, donc qui donne des recommandations pour l'alimentation des enfants de 0 à 3 ans. Donc, ce qu'il faut comprendre un des points importants qui caractérise le développement du comportement alimentaire chez l'enfant, c'est l'émergence vers l'âge de 2 ans environ d'un comportement qui est très fréquent, qu'on va retrouver à peu près chez 75% des enfants, et qui va être un comportement dit de néophobie alimentaire. C'est-à-dire qu'en grandissant, l'enfant arrive dans cette phase où il va devenir un peu chipoteur, difficile, donc vers l'âge de 2 ans, enfin la fin de la deuxième année. Et donc, ce qui nous semble particulièrement important à l'aune de ce constat, c'est d'offrir à l'enfant un maximum d'expériences alimentaires qui vont l'amener vers son répertoire d'enfant plus grand, puis ensuite d'adulte, avant l'âge de 2 ans. Donc, entre le début de la diversification alimentaire et l'âge de 2 ans. Donc, à partir de quel âge on peut commencer la diversification alimentaire? Là, pour un certain nombre de raisons liées à la maturation de l'organisme, notamment des fonctions intestinales, aussi au développement des capacités de mastication de l'enfant qui vont faire suite finalement aux capacités de succion, déglutition qui vont permettre de consommer du lait. On considère que on peut commencer la diversification alimentaire à partir de 4 mois révolus et qu'elle devrait commencer avant l'âge de 6 mois révolus. Donc on a une fenêtre ici entre 4 et 6 mois qui semble être une fenêtre favorable pour le démarrage des premières expériences alimentaires orales directes. Donc entre ce moment-là, donc on va dire autour du milieu de la première année, à l'âge de 2 ans, là on a un an et demi pour favoriser finalement un certain nombre de découvertes alimentaires pour amener l'enfant vers son répertoire familial et d'enfants plus âgés. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il est absolument nécessaire de faire goûter absolument tous les aliments de la création à l'enfant, mais on peut simplement raisonner en termes de répertoire habituel. Par contre, ça vaut vraiment la peine à ce moment-là de mettre l'accent sur la découverte des aliments qui lui seront les plus couramment proposés ensuite. Donc, tous les groupes d'aliments, viande, poisson, fromage, fruits et légumes, céréales, légumineuses, etc. Tout ce qui va finalement être dans son assiette un jour ou l'autre.
Et donc, dans quelle mesure l'allaitement, en tout cas l'alimentation du nourrisson, dans quelle mesure ce moment-là est-il charnière ou pas pour la découverte de la bibliothèque, justement, quand on est un nourrisson?
Alors, l'allaitement, c'est un contexte extrêmement intéressant pour les apprentissages pour l'enfant, parce que le lait maternel va être porteur d'un certain nombre d'arômes, de flaveurs, des aliments qui sont consommés par la maman pendant la période d'allaitement. Donc, c'est un phénomène biologique qu'on retrouve également au moment de la grossesse et qui fait que les aliments consommés par la mère vont aussi parfumer le liquide amniotique et constituer ainsi des premières expériences pour l'enfant. Donc, dans le cadre de l'allaitement, on va retrouver ces variations naturelles de flaveurs dans le lait de la maman en fonction donc, des variations de ce qu'elle consomme. Alors, ce n'est pas le reflet à 100% exact de l'alimentation de la maman, mais malgré tout, le lait maternel va porter ses traces olfactives et gustatives liées à son alimentation, suffisamment pour amener chez l'enfant une première mémorisation des goûts, ce qui va ensuite favoriser l'appréciation des aliments qui sont présentés au moment de la diversification alimentaire. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu étudier dans le cadre d'études expérimentales en collaboration avec des chercheurs danois où on demandait à des mères de consommer des capsules d'arômes spécifiques pendant l'allaitement. On a pu vérifier que dans ce cas-là, le lait maternel était significativement parfumé du parfum qui était contenu dans ces capsules d'arômes. L'exposition à ces parfums chez l'enfant était associée à une appréciation plus importante des aliments nouveaux parfumés avec les mêmes parfums au moment de la diversification alimentaire. Donc on voit bien toute une chaîne d'exposition très subtile qui vont préparer l'enfant à accepter un aliment nouveau, porteur de certains goûts au moment de la diversification alimentaire. Donc ça, c'est vraiment une des fonctions d'apprentissage de l'allaitement. Enfin, on peut se dire que la nature est merveilleusement faite dans ce sens-là. L'allaitement a aussi une autre fonction, alors qui va être moins sur l'apprentissage des goûts, mais plutôt sur l'apprentissage de la gestion de l'appétit, si on peut s'y référer de cette manière, dans le sens où, dans l'allaitement, à la demande, c'est l'enfant qui va décider au moment où il débute le repas et au moment où il arrête le repas. Ce n'est pas la maman qui va décider en fonction de ce qui reste dans le biberon. Et donc, là encore, ça va faciliter la mise en place d'une bonne régulation de l'appétit de l'enfant en fonction de ce qu'il a consommé et de ses besoins énergétiques.
Alors d'ailleurs, sur la question de la diversification alimentaire, je renvoie nos auditeurs et nos auditrices à cet épisode de Bouffon que l'on a traité sur ce sujet, donc à la diversification menée par l'enfant, la DME plus précisément, et c'était l'épisode 142 de Bouffon. Je voudrais revenir avec vous sur cette anecdote de saucisse au fenouil, puisque donc là on parle de diversification alimentaire chez l'enfant, et c'est quelque chose que personnellement j'arrive bien à avoir en tête, de me dire que quand on est jeune, c'est le moment aussi où on se constitue de manière générale des socles de souvenirs et d'expériences qui vont ensuite former certaines de nos opinions et pour certaines qu'on va avoir tout au long de la vie. Mais ce qui me surprend vraiment avec avec la saucisse au fenouil que je me suis mise à aimer donc il y a quelques années, c'est que à ce moment-là, j'étais déjà adulte et je ne m'attendais vraiment pas à ce que une simple grillade en vacances puisse me faire changer d'avis à propos d'un goût que j'avais pourtant l'impression de ne vraiment pas aimer et de ne vraiment pas un jour réussir à aimer. Et ça me fait m'interroger sur finalement la fragilité de nos goûts. Est-ce que ça veut dire que il y a des choses que actuellement je n'aime pas beaucoup et que je vais peut-être pouvoir apprécier, ou il y a quand même des goûts qu'on déteste si fort qu'a priori il y a assez peu de chances pour qu'on change d'avis. Et inversement, est-ce qu'il y a des choses que j'apprécie pour le moment que je risque aussi de me mettre à ne plus apprécier?
Alors, dans le sens d'un dégoût qui serait acquis, ce qui est assez bien documenté, c'est ce qu'on appelle les aversions conditionnées, c'est-à-dire en général quand on devient malade suite à la consommation d'un aliment, on va associer les propriétés sensorielles de l'aliment à la maladie et on va vraiment développer cette aversion conditionnée. L'exemple extrêmement connu de ce point de vue-là, c'est les huîtres. Enfin, ce sont les huîtres parce que les huîtres sont parfois associés à des contaminations qui peuvent induire des malaises gastriques ou intestinaux. Et de fait, on va développer une aversion assez forte pour ce produit et ne plus pouvoir en manger pendant des années, voire jamais. Donc ça, c'est relativement bien documenté. Dans l'autre sens, la préférence en quelque sorte conditionnée, on revient à un mécanisme d'apprentissage donc, que je citais tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les préférences, c'est ce qui va rentrer dans le domaine du comportement. Le comportement, à quoi il nous sert? Il nous sert à réagir à notre environnement. Notre environnement peut être fixe ou changeant. S'il est fixe, si on est exposé tous les jours à la même gamme d'aliments, entre guillemets, nos préférences n'ont pas besoin d'évoluer puisque finalement, on va probablement déjà avoir développé une appréciation de ces aliments et donc pouvoir les consommer tout à fait naturellement. Quand on change d'environnement, on va se confronter à différents aliments, différentes saveurs, différents goûts, et c'est là où les mécanismes d'apprentissage vont rentrer en jeu. Ça peut présenter un avantage, finalement, de développer cette nouvelle préférence, appréciation d'un aliment, d'un mets ou d'un arôme nouveau. Donc, dans ce cas-là, effectivement, notre organisme qui est programmé pour apprendre va remettre en jeu ces mécanismes d'apprentissage. Et par exemple, dans le cadre de la situation que vous décrivez, vous allez vous mettre à apprécier cette saucisse au fenouil, alors qu'avant, vous étiez plutôt réticente à l'appréciation du fenouil. Donc, on trouve beaucoup de traces de documentation de ces préférences acquises, quel que soit l'âge de la vie. On pense quand même que les apprentissages sont beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides au début de la vie, donc dans l'enfance, qu'ultérieurement, et notamment parce que suite à la mise en place de la période de néophobie que je décrivais précédemment, enfin l'enfant va rester néophobe pendant un certain temps. Alors il n'y a pas de durée fixe, c'est relativement variable, ça reste un phénomène qu'on observe de manière variable, mais on décrit généralement que ça va durer de 2 jusqu'à 8 ans. Donc pendant toute cette période, les parents sont souvent plus réticents à introduire des aliments nouveaux dans le répertoire des enfants, et finalement n'y pensent plus. Et donc, on ne cherche pas à le faire systématiquement. Mais l'enfant peut redevenir curieux de lui-même au-delà de cette période et chercher à faire des découvertes. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, sauf si on change d'environnement, on est moins facilement confronté à de la nouveauté et donc à la nécessité d'apprendre à nouveau un goût nouveau, si tout simplement on n'y est pas confronté. Donc, c'est pour ça que c'est souvent à l'occasion des voyages ou alors de visites chez des amis, etc., où on cuisine quelque chose que soi-même on ne cuisine pas, qu'on peut être confronté, j'ai envie de dire, à des réticences et aussi à la nécessité d'apprendre à nouveau. Mais aucune raison ne limite ces apprentissages, donc on peut vraiment apprendre à tout âge. Après, vous posez la question, est-ce qu'on peut vraiment apprendre systématiquement, même quand certains dégoûts sont ancrés? Alors, tout dépend du dégoût et j'ai envie de dire d'ailleurs la raison qui va être liée à ce dégoût. Je citais tout à l'heure les trois dimensions du plaisir, donc le plaisir sensoriel, le plaisir commensal ou social et le plaisir cognitif. le dégoût, il peut être à l'origine d'une de ces trois causes. Donc, ça peut être un dégoût sensoriel lié, par exemple, à une sensibilité particulière exacerbée à une des dimensions sensorielles de l'aliment. Donc, dans le domaine des saveurs, par exemple, on sait que l'amertume, souvent, peut être ressentie de manière très forte chez certains individus et constituer un vrai frein à la consommation de certains aliments. On retrouve ça en particulier chez les enfants dans le cas d'aliments spécifiquement amers, par exemple les endives. Les enfants savent assez facilement verbaliser le fait qu'ils ne veulent pas manger de cet aliment parce qu'il est amer, le goût est fort, ça pique la bouche. Enfin, il y a différentes expressions qui peuvent être manifestées par les enfants à cet égard. Donc, on peut avoir ces freins sensoriels avec des sensibilités exacerbées chez certaines personnes. Et on a observé notamment chez les enfants que les nourrissons qui étaient le plus sensibles à l'amertume étaient aussi ceux qui appréciaient le moins les légumes amers. Donc, on va bien retrouver cette sensibilité particulière qui va être un frein aux apprentissages. Mais on peut aussi avoir des freins qui sont liés à l'aspect cognitif. Tout simplement, hein, un aliment que je ne connais pas, dont je n'ai jamais entendu parler, que je n'arrive pas à me représenter, je ne vais pas avoir envie de le manger. Ça, c'est un frein qu'on va retrouver très fortement, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Par exemple, on a vu ces dernières années émerger des tendances autour de snacks ou produits apéritifs à base d'insectes, par exemple, qui ne sont pas des aliments typiques de notre répertoire alimentaire, c'est-à-dire qui ne sont pas des aliments auxquels on a été exposé en général dans notre enfance. Et on peut voir des réticences extrêmement fortes de la part d'adultes à consommer ces types d'aliments en raison de ce frein cognitif. Et j'aime bien citer à ce propos le travail de Claude Lévi-Strauss qui disait « Pour qu'un aliment soit bon à manger, il faut qu'il soit bon à penser ». Et donc, ce bon à penser, c'est vraiment la connaissance de l'aliment. Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on sait ce que c'est? D'où ça vient? Est-ce que c'est habituel de le consommer pour nous? Donc, ce frein, il peut être très, très fort. Et puis, dans l'aspect social également, comme je disais, on peut avoir également des freins qui sont liés à des expériences négatives liées au contexte social et notamment aux apprentissages dans l'enfance. Par exemple, dans des cas de forçage, si un enfant a été forcé à consommer un aliment ou forcé à finir son assiette pour des raisons particulières qui relèvent, on va dire, des attitudes parentales, ça va créer un contexte d'apprentissage extrêmement négatif qui va jouer négativement sur les préférences. Et donc ça peut constituer aussi un frein très fort à l'appréciation du goût d'un aliment.
Oui, et créer des blocages et faire du moment à table aussi un moment que l'on associe à quelque chose de désagréable plutôt qu'un instant de plaisir. J'ai une dernière question pour vous, Sophie Niklos. Est-ce que vous avez aussi, donc c'est une question un peu plus personnelle, est-ce que vous avez vous aussi des anecdotes concernant des aliments que vous n'avez longtemps pas appréciés et que vous seriez mise à apprécier un beau jour, et si oui, grâce à quoi ?
On a tous plus ou moins ces anecdotes, mais peut-être dans mes souvenirs, ce qui m'a le plus marqué, c'est la première fois que j'ai bu du café, parce que je voyais un engouement autour de ce produit. Et quand je l'ai goûté la première fois, quel choc. C'était amer, c'était très fort. Enfin, bon, voilà, j'avais pas mesuré l'intensité de ce goût, ou pas imaginé. Et c'est vrai que souvent, les premières consommations de café, elles sont sucrées avec du lait, enfin, tout un tas de préparations qui vont permettre d'adoucir le goût. Dans le cappuccino, par exemple. Et donc, on voit bien dans ce cas-là qu'on va bien apprendre à apprécier le goût de ce produit. Alors, on va avoir aussi un effet renforçateur qui est lié à la composition du produit, puisque le café, il a un effet stimulant qui va être recherché par les consommateurs. Mais donc, moi, j'ai vraiment ce souvenir de la surprise de la découverte du café.
Grâce à Sophie Niklos, nous venons de comprendre ce qui peut être à l'origine de certains dégoûts culinaires. Et comment ces derniers peuvent se défaire un beau jour, grâce à un repas cheval de Troie, ingurgité dans un contexte positif donné. Les goûts et les dégoûts semblent donc être une grande épopée culinaire personnelle pour chacun et chacune d'entre nous. Mais d'autres goûts et dégoûts culinaires, eux, sont férocement attachés à une culture donnée. Ils sont alors associés à une population, une région, une époque précise. C'est par exemple le goût très répandu qu'ont de nombreux pays d'Asie du Sud-Est pour les desserts aux textures chewy. Ou encore l'aversion qu'ont d'autres pays européens pour des viandes jugées trop fortes. Alors, d'où viennent donc ces goûts culinaires nationaux ? Comment expliquer l'aspect culturel d'un goût ou d'un dégoût ? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Si vous aimez Bouffon et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Diane Le Sieur et Neila Acmi. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.